Loué soit Dieu. On va méditer quelques instants la parole de Dieu ensemble. Et puis, bien évidemment, ensuite, on aura encore toutes sortes d'occasions, de bonnes raisons de louer Dieu, d'élever nos voix, d'ouvrir nos bouches, de le glorifier, de le remercier, d'intercéder. La parole fortifie nos cœurs. Dans la prière, l'Esprit Saint nous pousse toujours vers sa parole. Et sa parole nous pousse toujours à prier. L'un ne va pas sans l'autre, évidemment. On peut ouvrir à nouveau ensemble, s'il vous plaît, le psaume 45, les versets 1 à 12. Il y a un aspect important que nous n'avions pas eu le temps de développer ensemble dans ce psaume. Psaume 45. On relit ces versets ensemble. Psaume 45, verset 1er. Au chef des chantres sur les lys des fils de Corée. Cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure, ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès, la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Amen. On a considéré ensemble quelques points importants dans ce psaume. On pourrait penser qu'il y a une redondance, qu'il y a une répétition. Quand il est question de cantique et chant d'amour, un cantique, un chant, pour nous c'est un peu la même chose. Mais en réalité dans l'original c'est pas du tout la même chose, parce que c'est une des facettes de la prière, c'est que ce mot cantique en hébreu c'est un poème. Et oui, il y a de la poésie dans la Bible, il y a de la poésie dans les psaumes. Poème de contemplation. C'est un chant d'amour, ce qui évoque aussi la passion. Le psalmiste, ici, prend la peine, dans ce qu'on peut vraiment appeler dans un cœur à cœur, les yeux dans les yeux avec Dieu, dans ce face-à-face béni, il laisse ce qu'il y a à laisser. Tout sujet qui pourrait m'accaparer, me faire peur, tout ce qui pourrait me préoccuper, tout ce qui pourrait me détourner de lui, parce que mon objectif dans la prière, c'est lui d'abord. Et il prend le temps de contempler toutes les facettes de la personne de son Seigneur. Sa beauté, son visage, bien sûr, spirituel. On le contemple au travers de sa parole, par révélation, par l'esprit. Nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur. Ce ne sont pas nos yeux physiques, mais nos yeux de cœur qui le contemplent. Et puis nous avons, par la grâce de Dieu, par sa parole, par l'esprit, cette révélation de sa beauté. Tu es le plus beau des fils de l'homme, de sa puissance, de sa gloire, de sa joie, de sa paix, de sa souveraineté. Ton Dieu, ton trône, ô Dieu, pardon, ton trône est à toujours. Et puis il y a toutes les facettes de sa personne. Le psalmiste, là ici, s'est arrêté. Il n'y a rien de plus important que de contempler toutes les facettes, plus belles les unes que les autres, toutes plus glorieuses, toutes plus enthousiasmantes les unes que les autres, de son Seigneur, de son roi. Il est en train de lui rendre ses hommages. Une personne qui est réellement inimitable, qui est incomparable. Et puis il y a, après ce premier aspect, on l'a vu ensemble, de contemplation. Alors bien sûr, c'est pas, on n'est pas béat comme ça avec un air bête là. On n'a pas la position du lotus à attendre de décoller. C'est vraiment par la parole, par l'esprit, nous avons vraiment l'attention, les yeux de notre cœur se focalisent sur la nature extraordinaire de notre Dieu. Et l'esprit de Dieu ouvre les yeux de mon cœur, oui, bien sûr, nous en donne les révélations. C'est par l'esprit que les vérités de la parole deviennent vivantes et révélations dans nos cœurs, qu'elles ne sont plus informations, mais qu'elles sont révélations. Et il prend le temps, effectivement, de le contempler, parce que si nous prenons le temps de contempler nos enfants, de contempler un coucher de soleil, d'admirer, de savoir reconnaître tout ce qui est beau dans ce monde, de ce que le Seigneur a fait, à combien plus forte raison je dois aussi, moi, son enfant, savoir reconnaître la beauté, la perfection du Seigneur qui m'a sauvé et savoir lui rendre aussi l'adoration qui lui est due. Et puis quand je le vois, quand je le considère, il me passionne. Il est enthousiasmant, le Seigneur. Il est passionnant, le Seigneur, non ? Amen. Ce chant d'amour, c'est réellement, ça évoque le feu, quelque chose qui brûle à l'intérieur, ça évoque la passion. C'est la seule façon de vivre sa vie chrétienne, sinon c'est trop monotone. Et puis, avec la passion, forcément, le feu, l'amour, la passion, prier, c'est répondre à l'appel de son amour. Écoute, vois, prête l'oreille, il y a des choses que tu dois oublier, que tu dois laisser de côté pour pouvoir te centrer sur lui. Et n'oublie pas, c'est ce que dit le verset 12, c'est le bien-aimé qui porte ses regards, qui porte son désir sur sa beauté. Le Seigneur porte ses regards, mais un regard d'amour, un regard bienveillant. Je ne suis pas toujours convaincu que nous ayons bien compris quel est ce regard d'amour de Jésus, à quel point il nous aime, à quel point il nous chérit, à quel point, tout en étant conscient de tous les progrès qu'on a encore à faire, à quel point il nous jalouse, à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Il a fait de nous. Il ne s'agit pas de ce qu'il a fait pour nous, il s'agit de ce qu'il a fait de nous. Il nous a donné la plus belle robe, la robe de sa justice. Nous sommes justifiés par lui et nous sommes déjà parfaits en Jésus, en progrès sur cette terre, mais déjà parfaits en lui. Et puis quand je suis conscient de la passion, parce que Dieu est le plus grand passionné qui soit, Dieu est passionné de nous. La croix en est la plus belle preuve et le plus grand témoin de la passion de Dieu pour nous, c'est la croix. Et quand je comprends à quel point le Seigneur est passionné de moi, quand je comprends à quel point je lui manque, parce que si nous, lorsque nous n'avons pas nos enfants près de nous, nous sommes en souci, nous ne sommes pas bien, lorsque nos enfants, malgré tous leurs défauts et toutes leurs imperfections, nous manquent, j'entends cette parole de Jésus qui dit « Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous êtes capables de, à combien plus forte raison votre Père, Dieu, est en manque de moi ?» Et quand je réalise ça, ben je vous le dis bien aimé, bien sûr que j'ai des besoins, mais ce ne sont pas mes besoins qui me font prier, c'est l'amour. C'est ce désir de communion avec lui. Et puis vient aussi logiquement ce festin d'amour et de joie, des paroles pleines de charme, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Verset 2, évidemment, il ne s'agit pas d'éloquence. Le Seigneur n'a rien à faire de nos grandes phrases. Le Seigneur regarde nos cœurs. Et même si les mots sortent à l'envers, le Seigneur, lui, ce qu'il regarde, c'est la passion, c'est le feu qu'il y a en moi. Et c'est ce festin d'amour et de joie, ce partage. Verset 8, une huile de joie. Verset 16, la réjouissance, l'allégresse dans les palais du roi. Oui, dans la vie de prière, oui, dans la vie chrétienne, il peut y avoir des luttes, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des combats, mais déjà l'Ancien Testament est clair, c'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. Et il disait ça dans l'Ancien Testament alors qu'ils étaient très loin d'avoir ce que nous avons, parce que nous avons l'Esprit en nous. Et il y a vraiment une dimension de paix, de joie et d'amour, il y a une qualité de vie, de relation avec lui qui fait que oui, je suis le temple de l'Esprit, je pénètre dans les palais du roi parce que je suis son temple, mais Christ est mon temple et je peux vivre, même dans la difficulté, des temps de joie, de paix, d'allégresse profonde avec lui. Et puis prier, on l'avait vu aussi, prier c'est aussi s'abandonner, prier c'est s'offrir. Lorsque le verset 12 dit « Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages », ce « shachar » en hébreu désigne littéralement le fait de se prosterner, se courber. Il y a vraiment la volonté d'adorer. Dans la prière, quand j'ai considéré, il y a toute une logique, il y a un cheminement, quand j'ai considéré ce Seigneur aussi extraordinaire, quand j'ai compris à quel point il m'aime et que la prière, en réalité, est une réponse à son invitation, à son appel d'amour dans sa communion, il y a une joie qui se crée, la communion est bien établie entre lui et moi, et à ce moment-là, quand j'ai vu un Seigneur aussi merveilleux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je lui dis, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends-moi. Seigneur, je suis à toi. Et je lui dis même parfois, je lui dis, Seigneur, s'il y a une partie de mon cœur qui n'est pas encore à toi, s'il y a quelque chose où c'est chasse gardée, s'il y a quelque chose que je n'ai pas livré, s'il y a quelque chose où je résiste, Seigneur, montre-le-moi pour que vite je me dépêche de te le donner. Parce que tout ce que j'ai est à toi, tout ce que je suis est à toi. Rends-lui tes hommages, c'est-à-dire rends-lui ce qu'il adore-le, rends-lui ce qui lui revient de droit, et ce qui lui revient de droit, c'est moi. Amen. Prier, c'est aussi s'offrir. Et puis, une fois que ces étapes sont passées, le psalmiste va rencontrer le Dieu de l'impossible. Et après avoir pris le temps, bien sûr, parce que ce sont des révélations, comme le frère nous l'a rappelé, après avoir pris le temps de se rassasier de sa personne, après avoir pris le temps de se rassasier de son intimité, d'avoir eu ce contact avec lui, là, il a une nouvelle révélation. Dans ma tête, je sais que Dieu peut tout. Mais là, dans son cœur, il a la révélation que Dieu peut réellement tout. Il a la révélation d'un Dieu qui est un formidable guerrier, d'un puissant héros redoutable qui a toute puissance et toute capacité, toute solution, toute réponse entre ses mains. Il contemple ce guerrier tout puissant dans sa gloire et dans sa magnificence. Toutes ces images toutes ces phrases qu'on a lues, le verset 4, 5, « Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure, ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char », ce sont des images évidemment employées du monde militaire, parce que personne ne s'est encore, n'a eu l'idée d'un jour dans la prière de dire « Seigneur, monte sur ton char », ce serait un petit peu bizarre quoi. Ce sont des métaphores, ce sont des images que le psalmiste emploie parce qu'il a profondément conscience que l'Éternel est un vaillant guerrier. Exode 14, alors que le peuple est là, il est coincé entre la mer Rouge et les chars de fer de Pharaon qui symbolisent son oppression, sa tyrannie, qui est prêt à les détruire. Et alors qu'ils sont là et que toute la nuit, Dieu va faire souffler un vent impétueux pour séparer les eaux, alors qu'ils sont là coincés, acculés, entre la mer et les armées de Pharaon, Dieu parle à Moïse, il dit à son peuple, l'Éternel est un vaillant guerrier. Gardez le silence. Lorsque il parle à Josaphat, il lui dit, l'Éternel combattra pour vous. Et il y a beaucoup de facettes dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament qui nous montrent cette facette du Seigneur qui est un Dieu qui aime agir, un Dieu qui passe à l'action, un Dieu qui est un vaillant guerrier, le Dieu qui combat pour nous. Oui, je vous l'ai dit ici, j'ai mis 2 Chroniques 20-15, c'est le récit de Josaphat. Après la révélation de sa nature, vient nécessairement celle de ses œuvres. Israël, le peuple, dès la sortie d'Égypte, le peuple avait vu cette gloire. Il avait vu les œuvres de Dieu, il avait vu cette puissance manifestée au travers des 10 plaies. Il avait vu au travers de la mer Rouge, il a vu à maintes et maintes et maintes reprises, et notamment lorsque le Seigneur les délivre là de la main de Pharaon et que les armées de Pharaon sont englouties dans la mer. Exode 15, verset 3, à ce moment-là on prend le tambourin, on chante, c'est la fête et on proclame, on célèbre, l'Éternel est un vaillant guerrier. Et il y a toute une célébration qui est là, qui est magnifique. Ils avaient vu la puissance et la gloire de Dieu. Le problème, c'est que 3 jours après, quand ils arrivent aux eaux de Marah, les eaux amères, par leur attitude, le Seigneur leur montre que le véritable problème, c'est leur cœur qui est amer. Et qu'ils n'ont pas reçu, ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas reçu la révélation. Et quand ils sont à l'étape suivante, là devant les eaux de Marah, au lieu de dire « Seigneur, là, tu nous as, il y a 3 jours, c'était pas il y a 30 ans quand même, c'était il y a trois jours, Seigneur, tu as fait ça, et puis on a vu les 10 plaies, et puis on a vu aussi la Pâque, et puis on a vu la mer Rouge, et puis Seigneur, tu es capable de faire ça. » Et là, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de cantique. Ils murmurent, ils s'inquiètent, ils ne voulaient pas croire. Quand on apprend réellement à remettre Dieu au centre de notre vie de prière, quand on accepte d'avoir une prière qui soit théocentrée, centrée sur lui, et qu'on apprend vraiment à considérer les facettes de sa personne, quand on remet au centre la parole, quand on remet au centre la prière, de nos vies, quand on remet au centre la foi, quand on prend soin de sa foi, quand on prie en accord avec les principes bibliques, quand on est vraiment à ses pieds, frères et sœurs, on retrouve nécessairement le Dieu de l'impossible. Et on retrouve nécessairement le Dieu qui agit pour nous, le Dieu qui, lui, n'a jamais connu aucun échec. Ta droite se signale, dit le verset 6, par de merveilleux exploits. La droite, dans la Bible, c'est un symbole. C'est un symbole d'action. C'est un symbole de force. C'est un symbole aussi de bénédiction. C'est un symbole aussi d'action, oui, de puissance, de bénédiction, je l'ai dit. Ta droite se signale par de merveilleux exploits. Pourquoi est-ce qu'on a une Bible qui soit, excusez-moi, aussi longue? Non, la Bible, elle est longue, hein, sérieux. Hein. Sans galvauder la parole de Dieu, pourquoi est-ce que j'ai un Dieu, excusez-moi, j'ai l'impression qu'à chaque page, il me répète toujours la même chose. Le nom des intervenants change, le nom des ennemis change, le siècle change, ceci change, mais on retrouve toujours les mêmes principes. Et on s'aperçoit en réalité qu'à chaque fois, le Seigneur, des fois je me dis, mais Seigneur, t'aurais pas pu nous faire un truc un peu plus condensé, sans lui manquer de respect, hein, vous avez compris, tu pourrais pas nous faire un truc un peu plus condensé, Seigneur ? On est obligé d'avoir les Ammonites, les Moabites, les Édomites, et machin, et puis Abraham, et Lot, et David, et Saül, et Joseph, et Eliab, et Shammai, et machin. Il y a des centaines de personnes. Je dis, Seigneur, tu ne pouvais pas faire simple? Tu me répètes toujours. Oui, le Seigneur fait exprès, parce qu'à chaque page, il me montre, il me dit, je suis le Dieu de l'impossible. Regarde ce que j'ai fait. La Bible n'est pas là, frères et sœurs, pour... Excusez-moi, ce n'est pas un livre qui parle de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui me parle, à moi personnellement. Et il me dit, regarde cette situation, regarde comme c'était fichu, regarde comme c'était perdu d'avance, regarde ce que j'ai été capable de faire, regarde ma grâce, regarde ma patience envers un peuple qui ne méritait rien, regarde ma nature,
regarde mes attributs, puis regarde aussi mes œuvres, regarde ma puissance. Tout ce que je fais est parfait. Et quoique, peu importe ce qui se présente à chaque page dans la Bible, bien-aimée, mais en vérité, tout est une succession d'impossibilités. Problème sur problème, sur problème, sur problème. Difficulté sur difficulté, impossibilité sur impossibilité. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'il faut comprendre que la Bible ne me donne pas des renseignements sur Dieu, mais elle me fait vraiment connaître qui est Dieu dans sa nature et elle me montre aussi de quoi il est capable. La Bible est une succession d'impossibilités résolues par la toute-puissance de Dieu, de situations désespérées. On a même, ce n'est pas une impression, Dieu fait exprès que les situations soient bien, 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 bien mortes et enterrées, que ce soit bien, bien, bien désespéré. Et quand c'est bien, bien, bien désespéré, quand on est sur le terrain de l'impossibilité, parce que tant que c'est un peu possible, on gère. Mais quand on est bien sur le terrain de l'impossibilité, et bien à ce moment-là, le Dieu de l'impossible entre en scène. C'est là qu'il prend toute sa valeur et c'est là que tout ce qu'il fait va me montrer que j'ai raison de croire qui il est et ce qu'il est capable de faire. Et quand la situation, pardonnez-moi de le dire ainsi, est bien fichue, quand c'est mort et enterré, merci Seigneur, le Dieu de l'impossible entre en scène et il se signale par de merveilleux exploits, toujours en réponse à la foi. Il fait surgir des solutions là où il n'y en a pas. Je vous disais, le peuple est pris au piège entre la mer et Pharaon. Dieu va créer une voie. Dieu crée des issues. Dieu crée des chemins, des voies, là où il n'y en a pas. La Bible n'est pas là pour... c'est pas pour raconter des histoires aux enfants pour qu'ils dorment mieux le soir. Quoique bon, il vaut mieux leur raconter une bonne histoire biblique plutôt que de les laisser regarder n'importe quoi sur leurs écrans, n'est-ce pas ? On est bien d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas pour, endormir les enfants, vous avez compris. Mais le Seigneur me dit, il me dit, mais dis-moi ce soir, dis-moi quelle est ton impasse, dis-moi quelle est ton impossibilité, dis-moi ce soir quel est ton pharaon. Et quelle est cette mer peut-être qui est devant toi ? Qu'est-ce qui te prend en étau ? Qu'est-ce qui fait que tu es coincé ? Et le Seigneur te dit, mais si j'ai délivré un peuple entier, si j'ai même été capable d'ouvrir une mer pour qu'il passe à sec, tu ne crois pas que je suis capable de créer une issue dans ta situation ? Moi, je ne peux pas créer un chemin. Je ne peux pas créer une issue. Quand un peuple, 3 millions de personnes minimum, 3 millions de personnes minimum dans le désert jour après jour qui passent leur temps à murmurer, à ne pas croire, et Dieu leur donne à manger et à boire. Amen. S'ils ne s'appellent pas Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit, le Seigneur me dit, je prends soin de 3 millions de personnes chaque jour. C'est quoi ton besoin matériel ce soir ? Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas te donner ? Il y a quelque chose que tu vas présenter à Dieu ce soir qui est plus important que 3 millions de personnes ? Vous avez déjà réfléchi à Deutéronome 8 ? Ton soulier, pendant 40 ans dans le désert, ne s'est pas usé ? Comment ils ont fait ? Ils ne sont pas partis d'Égypte avec 19 paires de chaussures chacun. Puis les enfants, ils ont grandi dans le désert. Comment ils ont fait ? C'est quoi ? C'est que ils ne pouvaient pas donner leurs chaussures aux plus petits qui avaient grandi, sinon ils n'en avaient plus eux-mêmes. Les chaussures ne se sont pas usées. Je pense que les chaussures ont dû grandir avec... Mais franchement, comment on explique ça ? 40 ans sans aucune ressource, tes souliers ne se sont pas usés. Et Dieu me dit, je pourvois, mon peuple a faim, je pourvois, il a des besoins, je m'appelle Yahvé Jiré, tu es dans une impasse, je le libère, je le délivre. Dieu protège aussi un autre aspect, les exploits de Dieu sont innombrables, j'en cite quelques-uns, mais on va prier. Dieu protège et délivre comme personne. Comment des hommes comme Anania, Michaël, Azaria, les amis de Daniel, parce qu'ils sont fermes dans leur foi, parce qu'ils ne feront aucun compromis dans leur cœur devant Nebuchadnezzar, préfèrent une fournaise surchauffée. Comment ils ont fait pour déjà ne pas être brûlés ? Quand les hommes se sont approchés pour les jeter, ils ont été eux-mêmes brûlés. Comment ont-ils fait pour ne pas être brûlés? Comment le... Il nous est dit que leurs habits et leurs cheveux ne sentaient même pas l'odeur du feu. Dieu délivre, protège et délivre comme personne. Daniel dans la fosse aux lions. On sortit Daniel de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'est quoi ta fosse ce soir? C'est quoi ton impasse ce soir? Quelle est ta fournaise? Quelle est la situation qui fait qu'à l'intérieur, ça chauffe? La présence Nebuchadnezzar, ce roi païen, ce mégalomane détraqué, a vu. C'était Jésus qui était, ce quatrième homme, c'était Jésus qui était dans la fournaise. Il l'a vu. Des gens autour de toi ont besoin de voir le quatrième homme dans ta fournaise. Dieu protège et délivre comme personne de merveilleux exploits. Dieu peut accéder à n'importe quelle personne au bout du monde. Saul de Tarse respirait la menace et le meurtre. Il était haineux envers le peuple de Dieu. Je sais que certains de nos enfants, c'est des morceaux. On est bien d'accord. Mais si Saul de Tarse a fléchi le genou devant le Seigneur, y a-t-il un homme ou une femme sur cette terre que le Seigneur ne puisse pas courber? Pourquoi il a courbé Saul de Tarse? Il me dit, regarde ce que je suis capable de faire. Prie, intercède, ne lâche rien. Arrête de raisonner, arrête de rationaliser, arrête de te plaindre, arrête de te décourager, arrête. Prie, intercède, tiens-toi à la brèche, vas-y, continue, parce que je suis capable de... Ah mais non, Seigneur, mais là, c'est plus possible, ça fait trop longtemps que ça dure. Non, puis Seigneur, il faut qu'on te rappelle, Saul de Tarse quand même, il a déposé non pas le caillou blanc, il a déposé le caillou noir. Donc il a validé la lapidation d'Étienne. Seigneur, c'est bon là, maintenant on arrête tout, tout le monde rentre à la maison, tu ne sais pas à qui on a affaire. Seigneur dit, cet homme-là, je vais le courber. Un tueur de chrétiens, je vais le mettre à mes pieds. Je sais que mon fils et ma fille, parfois, c'était compliqué. Mais à côté de Saul de Tarse, c'est du beurre, hein, mes enfants. Hein. On est d'accord? Alors ça m'encourage. Je dis, Seigneur, tu es capable de faire ça. Je suis motivé, je reprends dans la prière. Et puis j'y vais. Et puis je vois dans des situations désespérées, je vois des hommes, je vois Moïse, Gédéon, David, Pierre, Joseph, tous ces hommes. C'était des antitypes du héros. C'était des gens qui n'avaient pas d'avenir ou qui n'en avaient pas ou plus. Et le Seigneur se présente à eux. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'était les antitypes du héros. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, leur donne, pardonnez-moi cette expression, une destinée, plutôt un avenir extraordinaire dans son œuvre. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Puis à un autre moment, je vois Anne, elle est dans le temple, elle a de l'amertume dans l'âme, elle est stérile, et puis elle pleure. Et Dieu lui donne un enfant. Parce que Dieu donne des enfants à ceux qui n'en ont pas. Et puis je vois mon maître, je vois mon Jésus, alors que Yahvé, l'Éternel Tout-Puissant, avait nourri des hommes, des femmes dans le désert. Je vois Jésus proclamer sa divinité, multiplier les pains pour la foule et démontrer qu'il est maître même sur la matière. Wow. Puis je le vois calmer des tempêtes. Et le Seigneur me dit, tu vois, en tant que créateur, j'ai autorité même sur les éléments naturels. Alors vas-y, dis-moi ce soir quelle est la tempête que je ne puisse pas calmer. Dis-moi quelle est la tempête sur laquelle tu ne pourrais pas marcher avec moi. Et tout cela, ta droite se signale par de merveilleux exploits. C'est pas grave, je continue, j'ai envie. Et puis, j'aime ce récit de la femme à la perte de sang. Ça fait 12 ans qu'elle est malade. Non seulement les médecins peuvent plus rien faire pour elle, ils veulent plus la voir, elle trouve plus un médecin qui veut la prendre en charge. Et puis ils l'ont vidée physiquement, financièrement, elle a plus rien. Ça fait 12 ans. Puis dans son cœur, elle a une détermination de foi. Elle dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça fait 12 ans qu'il ne se passe rien. Et Jésus me dit, tu vois, non seulement je suis plus fort que la maladie, mais je suis plus fort que le temps. Et le temps ne doit pas avoir une érosion sur ma foi. Alors, au cas où je n'aurais pas compris, il y a cette femme qui est courbée par un mauvais esprit, mais elle, ça ne fait pas 12 ans, ça fait 18 ans. Et le Seigneur me montre, il me dit, non seulement j'ai autorité sur le monde démoniaque, j'ai autorité sur le monde ténébreux, mais aussi sur le temps, ça fait 18 ans, ce n'est pas un problème. Et il relève cette femme avec une parole d'amour et de grâce. Alors on va aller ensuite à la piscine de Bethesda. Et puis là, on va trouver cet homme. Parce que 12 ans, 18 ans, si moi j'ai une situation qui est bloquée depuis 20 ou 25, je vais me dire, ah ben c'est pas possible. Non, mais le Seigneur, il a tout prévu. Parce qu'il m'emmène aussi à la piscine de Bethesda. Et il me montre cet homme qui est paralysé depuis 38 ans. Vous vous rendez compte? 38 ans. Plus personne n'a aucun espoir. Tout est mort, définitivement mort et enterré. Merveilleux Jésus. Et il le relève, il le guérit. Une parole de Jésus. Et puis il y a ce fils de l'officier du roi, un homme qui ne mérite rien, un ennemi de la nation d'Israël, parce qu'il y a les dimensions de la grâce de Dieu, et cet homme vient et puis il supplie Jésus, et je lui dis non, je ne vais pas me déplacer, Jean chapitre 4, c'est pas la peine, je ne me déplace pas. Va, ton fils vit, parce qu'une parole à distance, j'ai autorité à distance. Va, ton fils vit. Il saisit la parole, il dit ok Seigneur, j'y vais. Et quand il y va, le lendemain on vient à sa rencontre et on lui dit, ton fils vit. À quelle heure? C'était à telle heure. Ah, c'était exactement l'heure à laquelle Jésus m'avait dit, va, ton fils vit. Une parole de Jésus. Merveilleux Seigneur, extraordinaire. Tout se fait en réponse à la foi parce que la prière bien-aimée, elle a pour but de me mettre en contact avec le Dieu de l'impossible et de vivre de ses bénédictions. Ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Les flèches, c'est vrai qu'à notre époque, ça nous parle moins qu'à leur époque à eux, parce qu'aujourd'hui on voyage à plus que la vitesse du son, on tire avec nos fusils des balles qui font plusieurs centaines de mètres en une seconde, mais à cette époque-là, il n'y a pas tout ça. À cette époque-là, l'instrument, l'arme la plus rapide, la plus redoutable, la plus efficace, c'est la flèche. Une armée d'archers est totalement redoutable. Et là, ils prennent cette image-là, parce que les flèches sont synonymes de rapidité, de puissance, de précision, d'efficacité. Tes flèches à toi, Seigneur, elles sont aiguës. C'est une façon de dire, elles perceront. C'est une façon de dire, toi, Seigneur, tu ne connaîtras jamais l'échec. Toi, Seigneur, excusez-moi de le dire ainsi, hein, mais toi, Seigneur, tu mets toujours dans le mille. Ta parole, une parole dans le cœur d'une personne. Moi, je peux parler. Des fois, ça parle moins. Mais le Seigneur, lui, merci, ne connaît jamais d'échec. Le Seigneur n'est jamais à côté de la plaque. Le Seigneur est toujours efficace. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Merci Seigneur. Une efficacité redoutable, c'est l'image de cette flèche. La précision, l'efficacité. Sois vainqueur. Parce que le psalmiste sait, il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas que la victoire appartient à l'Éternel. Et c'est Dieu, c'est lui, dans sa grâce, qui remporte les victoires. Ce sont ses victoires à lui. Toutes les victoires, sans exception, quelles qu'elles soient, trouvent leur origine à la croix. Et il nous les communique, il nous les donne. 1 Samuel 17:47, David devant Goliath. La victoire appartient à l'Éternel. Josué chapitre 6,
il a cette révélation de Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, son épée nue, son épée dégainée à la main. Jésus, alors que Josué et le peuple étaient à ses pieds, Jésus revient du combat et il lui dit, « Vois maintenant, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. » Tout se fait par la seule et unique victoire de Jésus à la croix. Alors le psalmiste, après avoir découvert à nouveau toutes les facettes tout aussi merveilleuses les unes que les autres de son Seigneur, une fois qu'il a redécouvert tout cela, il va pouvoir ensuite rencontrer le Dieu de l'impossible, le Dieu qui agit, le Dieu qui se bat en sa faveur et qui lui communique toutes les victoires. Au-dessus de toutes nos guerres, frères et sœurs, au-dessus de toutes nos guerres, il y a le grand guerrier. Au-dessus de tous nos combats, il y a le grand combattant du ciel. Et le plus grand combat de notre vie, bien-aimé, je sais qu'il y a des combats sur cette terre, mais il y a un combat qui est plus important que tous les autres. Mon combat, c'est d'être à ses pieds. Et pour le reste, c'est lui qui gère. Amen. On se recueille, on prie. Merci Seigneur.